Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise,
le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du Talk Franchise. Je suis Valentine Puyot, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis, comme toujours, accompagnée par mon collègue Nicolas Monnier. Nicolas, bonjour.
Bonjour Valentine.
Comme à chaque pré-rentrée en septembre, le MEDEF organisait sa traditionnelle université d'été à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Une manifestation qui permet de prendre la température sur le moral des entreprises. Et sans surprise, Nicolas, la crise énergétique est bien évidemment dans toutes les bouches, comme vous l'expliquait son président Geoffroy Roux-de-Bézieux. À l'approche des fêtes, c'est aussi l'occasion pour nous d'enquêter sur les préparatifs du secteur du jouet et avec un petit temps d'avance sur la sortie du nouveau catalogue de fin d'année de Jouets Club, prévu d'ailleurs début octobre. La coopérative est notamment sur les starting blocks pour préparer cette période délicate. Enfin Nicolas, la fin du mois d'août a vu la polémique des dark stores enfler à la faveur de tweets d'élus de grandes métropoles, vent debout contre ce qu'ils estiment être une concurrence déloyale contre le commerce de proximité.
Le Talk Franchise.
Outre le président ukrainien qui a ouvert l'université du MEDEF le 29 août dernier, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a également fait un discours au travers duquel elle a tenu à prévenir les entreprises. Elles devront engager un plan de sobriété pour éviter les coupures et un rationnement énergétique. Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, est revenu sur les intentions du patronat dans ce domaine et a détaillé les conséquences pour les entreprises.
Nous, ce qu'on va faire au niveau national, c'est d'essayer de faire un guide de toutes les bonnes pratiques qu'on peut faire en matière de sobriété, que ce soit sur le chauffage des bureaux, que ce soit sur la lumière, les enseignes lumineuses, le déplacement des collaborateurs. De certaine manière, on n'a pas attendu les injonctions de la Première ministre. Après, il y a les process de production, mais ça, ça ne se fait pas en quelques jours. Ça a d'abord commencé il y a des années, hein. Tout le monde essaye d'économiser l'énergie et d'économiser le CO2. Il faut l'accélérer, mais on ne pourra pas changer, en tout cas dans beaucoup d'endroits, les process de production. Mais il y a des choses à faire. On a vu que la grande distribution, par exemple, tout simplement, si tout le monde éteint les enseignes lumineuses le soir dans les centres commerciaux, pourquoi on ne le faisait pas avant? Parce que comme il y en avait un qui gardait son enseigne lumineuse, tout le monde voulait garder son enseigne lumineuse. Si tout le monde se met d'accord pour dire on éteint l'enseigne lumineuse, je pense que la France ne se portera pas plus mal, les clients pas plus mal, à partir du moment où le magasin est fermé. Voilà, donc on a tous, il y a plein de bonnes idées. C'est vraiment, vous savez, en 1974, au moment du choc pétrolier, on a tous un peu oublié parce qu'on n'était pas très âgés, mais c'était la chasse au gaspille. On est revenu dans la chasse au gaspille. Voilà. Et d'ailleurs, le décret sur, c'est drôle, le décret sur les températures dans les bureaux date de 1974. Sauf qu'on l'avait tous complètement oublié qu'il fallait être à 19 degrés.
À quelques mois des fêtes de Noël, vous êtes allée, Valentine, à la rencontre de Jacques Baudoz, le président de la coopérative Jouets Club, pour voir ce que l'enseigne préparait pour réussir cette période que l'on sait cruciale au sein de cette filière.
En effet, Nicolas, l'enseigne aura revu toute sa logistique interne pour assurer la disponibilité des stocks dans les linéaires.
Le nombre de magasins en France de Jouets Club, c'est 290 magasins. Nous avons 240 adhérents, puisque nous sommes une coopérative, ce sont des indépendants qui détiennent ces magasins. Certains ont plusieurs magasins, un, deux ou trois magasins. Et puis les perspectives d'ouverture sont, sur la fin d'année, il y a encore une ouverture à faire qui sera au mois d'octobre, qui est l'ouverture du magasin de Sirens en Alsace. Et on a eu depuis le début d'année une dizaine d'ouvertures. Sur la partie logistique, le changement qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé toute notre logistique depuis quelques mois, c'est-à-dire en 2020. On a commencé ça en 2020, on a terminé en 2021. On a regroupé tous nos entrepôts dans un seul entrepôt de manière à pouvoir répondre plus vite aux attentes des livraisons des produits, à la fois pour les consommateurs en direct, donc pour la partie B2C, c'est-à-dire que le site internet, mais aussi pour les en B2B, c'est-à-dire livrer les magasins plus vite des produits de notre centrale.
Ce qui devrait éviter un burn-out au Père Noël et assurer à l'enseigne un fort taux de visite en magasin sans distinction d'emplacement de boutique sur le territoire.
Jouets Club, donc toujours, prévoit ses stocks très en amont. Donc c'est une particularité de notre métier, donc on doit avoir une offre qui répond aux attentes des clients. Donc Jouets Club fait toujours rentrer ses marchandises très en amont. Donc là nous avons rentré une grosse partie de nos stocks pour Noël, anticipés. L'anticipation est le maître mot de Jouets Club pour les jouets, pour que les consommateurs trouvent les jouets qu'ils attendent à Noël. Donc voilà, donc on a le stock, on a les produits qui seront là et qui seront les stars de Noël. On les aura donc dans les étagères pour pouvoir répondre aux attentes des enfants, parce que les enfants, ce sont eux qui sont les prescripteurs de ces fameux jouets.
Enfin, l'enseigne déploie de nouveaux services pour redonner, dans ce contexte si particulier, du pouvoir d'achat aux familles.
Pendant la crise sanitaire, on a amplifié notre façon de travailler sur la partie drive ou click and collect, qui existait déjà, mais qu'on a, je dirais, amplifié encore pour le fonctionnement. Et il reste toujours fort dans notre partie du business, hein, pour chaque magasin. Et puis, donc, depuis 2022, nous avons lancé le projet donc Troco Jouets, c'est-à-dire que c'est des jouets d'occasion, qui permettent aussi aux consommateurs qui ont un faible budget, donc d'acheter des jouets pas très chers, et puis également aux familles qui ont des jouets qui sont plus utilisés par les enfants, de venir les revendre et ainsi pouvoir offrir un nouveau jouet à leurs enfants.
Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Nicolas, ça ne vous a pas échappé, cette fin du mois d'août a également vu naître une polémique au sujet des dark stores que le gouvernement a vite souhaité éteindre. Dites-nous-en un peu plus.
C'est exact, Valentine. Mardi 6 septembre dernier, une rencontre entre les ministres Olivia Grégoire et Olivier Klein, ainsi que plusieurs associations d'élus, a permis de lever le voile sur un flou juridique. Les dark stores sont aujourd'hui bel et bien des entrepôts et pas des commerces, notamment à Paris, où les acteurs du secteur vont devoir rentrer dans les clous, comme le précise Olivier Klein, ministre chargé de la ville et du logement.
À Paris, les règles d'urbanisme devront s'appliquer et on sera attentif à ce que la ville de Paris, on a parlé de tous ces sujets-là, parce que évidemment, il y a la situation antérieure et aujourd'hui, les dark stores qui sont présents ne répondent pas aux règles, hein, puisque les entreprises n'ont pas fait les changements de destination. Ils ont peut-être voulu jouer sur le flou, mais aujourd'hui, il n'y a plus de flou et il n'y aura plus de flou dès que les décrets seront pris, les arrêtés seront pris et charge aux dark stores de rentrer dans les règles.
De son côté, Olivia Grégoire, la ministre chargée du commerce, a salué le consensus obtenu à l'issue de cette réunion. Même s'il faut le rappeler, Nicolas, aucun professionnel du quick commerce n'était présent.
Nous avions à cœur, à la suite des retours des collectivités locales qui ont été sollicitées cet été, qui nous ont fait des retours à partir de propositions, on a retravaillé et présenté des scénarios. Parmi ces scénarios, nous sommes contents, ravis de voir qu'il y a une unanimité claire, une concertation qui permet de trouver une solution, de créer un outil à la main des maires qui, en fonction de leurs souhaits, pourront beaucoup plus facilement, clairement, interdire ou non les dark stores et les dark kitchens. Nous souhaitions sortir par le haut sur cette problématique qui est une problématique épineuse dans de nombreuses villes, dans de nombreuses collectivités locales. Des propositions ont été faites, on a retravaillé, on a trouvé une unanimité et maintenant on va le mettre en place. Ça n'enlève en rien des échanges que nous avons eus aussi, au-delà des dark stores et des dark kitchens, avec aussi le ministre de la Ville. La ville de demain, ces nouveaux types de commerce, ce sont des enjeux sur lesquels nous devrons continuer à échanger, à travailler. Nous l'avons dit clairement aux représentants des municipalités présents. Aujourd'hui, l'objet, c'était Dark Store, Dark Kitchen, mais nous sommes bien conscients qu'il y a là, à la fois sur la ville de demain, mais aussi le commerce de demain, des enjeux qu'il nous faut encore travailler et sur lesquels nous continuerons à travailler à la suite de cette première réunion.
Un soulagement également pour Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, en charge de l'urbanisme et en première ligne sur le sujet. Autant dire que ce dernier n'a pas mâché ses mots en sortie de réunion.
Ces économies de plateforme arrivent avec des investissements colossaux de centaines de millions d'euros, parfois de milliards d'euros. Ont des stratégies qu'on peut questionner, mais qui consistent en gros à bousculer les acteurs traditionnels, à part du dumping sur les prix, à pénétrer les marchés et ensuite soit à imaginer se revendre, y compris aux acteurs traditionnels de ces secteurs, soit à un moment donné avoir tué tellement tout le reste des opérateurs qu'on finit par pouvoir avoir une stratégie prix où on récupère son argent. Ce n'est pas normal que des acteurs économiques. On est dans des cas où on méprise les règles de vie en société en ne respectant pas les plans locaux d'urbanisme, en ayant des nuisances immenses pour les riverains. On fait croire aux consommateurs qu'on est révolutionnaire. Livrer un truc à domicile, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe. Mais l'innovation, la fausse innovation, c'est de prétendre qu'on peut le faire en 10 minutes et moins cher que le commerce d'en bas. C'est un mensonge. Et donc, je pense que les consommateurs se font avoir parce qu'ils sont attirés par quelque chose qui est très pratique, mais qui sera remis en cause, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se retrouveront captifs de modes de consommation qui pourront leur imposer des tarifs. Ils auront tué les cœurs de ville en concurrençant de façon déloyale les commerces. C'est un modèle qui est basé sur l'hyper-productivité et, pour le dire très clairement, sur le mépris des salariés quand ils sont salariés, parce qu'il y a aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs. Bref, ils viennent bousculer des dizaines d'années d'acquis sociaux en matière de droit du travail. Et donc, à un moment donné, ça suffit. Et je suis heureux que, pour une fois, sur ce sujet, le gouvernement d'abord ait changé de position et ensuite comprenne que ces économies de plateforme, c'est un bousculement vraiment au sens politique, philosophique de la vie des villes.
Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Un peu d'autopromotion enfin. Nicolas, vous le savez très bien pour y avoir participé, nous sortons une nouvelle formule de l'officiel de la franchise et qui mieux pour en parler que Florian Lavenu, directeur général adjoint de l'officiel de la franchise. Florian, bonjour.
Bonjour Valentine, bonjour Nicolas.
Quels sont les éléments clés de cette nouvelle formule ?
Alors déjà, si je reviens un petit peu sur la genèse de cette nouvelle formule, au moment où on a décidé de le faire, on s'est posé la question, à peu près comme tout le monde, qu'est-ce qu'on a envie de changer véritablement dans ce magazine ? Et on s'est aperçu qu'en termes d'éditorial, on était très proche de notre volonté de départ, de notre ADN, donc on ne s'est pas trop attardé là-dessus, on s'est dit qu'on était bon, en fait. On est assez fiers de ce qu'on propose. Par contre, graphiquement, c'est là où il y avait beaucoup de travail. Alors, cette refonte graphique, elle s'est faite en deux temps. Déjà, on a décidé de garder notre logo. On s'est posé la question aussi de le changer, mais en fait, c'est un élément assez fort de notre image. Donc là aussi, on en est fiers, on a voulu le garder. Et cette refonte, donc, en deux temps, a commencé par la couverture, que je vais définir plutôt d'une refonte en douceur. Le logo va prendre de la couleur. Vous verrez, donc on va, selon l'air du temps, selon les couleurs du visuel de couverture, le faire changer. Nouvelle police de caractère et puis nouvelle mise en page de notre titrail. Donc la couverture, les gens ne seront pas perdus. Vous allez reconnaître l'officiel de la franchise, mais ça sera quelque chose de plus pétillant et de plus frais. Par contre, à l'intérieur, on est reparti de zéro. Donc là, on a tout revu, refait la maquette de chaque page, la totalité des pages. On a gardé nos cahiers éditoriaux, mais en les simplifiant. Donc, il y a quatre grandes familles. Je vais y revenir après. Donc, l'actualité, l'analyse, les premiers pas et puis l'expertise. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, nouvelle charte graphique totale, beaucoup plus dans l'air du temps, des grandes images, beaucoup espacées, aérées, beaucoup de couleurs.
Et pour le lecteur, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, pour le lecteur, ça signifie en fait voilà, une simplification d'accès, on va dire, à notre contenu, avec ce que je disais, ces quatre gros rendez-vous, hein, je les recite. L'actualité, l'analyse, qui est vraiment le gros cœur de notre magazine, hein, l'analyse secteur, l'analyse des zones d'implantation, l'analyse des marchés, des tendances. Premier pas pour les personnes qui sont lancées et qui sont franchisées, mais vraiment tout jeunes. Et puis l'expertise avec nos partenaires, les experts partenaires. Donc ça, les gens ne seront pas perdus. Simplification, quatre grands rendez-vous éditoriaux. La seule difficulté qu'on a, si je peux appeler ça une difficulté sur l'officiel de la franchise, c'est qu'en fait, nous, on a deux cibles. On a à 90% le candidat. On doit l'accompagner au mieux dans son projet d'entrepreneuriat en franchise, lui simplifier l'accès à la franchise et être très pédagogue et toujours se situer de son côté. Parce qu'on a tendance des fois à pas forcément être objectif sur ce marché. Donc nous, on tient à ça et on est très, très fiers de ce positionnement. Donc il y a ça, mais on est beaucoup lu aussi par les enseignes et par les réseaux. Et donc cette difficulté, on en a fait une force, puisqu'aujourd'hui, on est à même de proposer un magazine qui va répondre à ces deux besoins de cible lecteur, avec la veille, l'actualité qui va beaucoup quand même intéresser les réseaux, et toute la partie analyse qui sera très impactante auprès des candidats.
Merci Florian. Ce talk touche désormais à sa fin. Merci à tous et à toutes pour votre écoute, et rendez-vous en kiosque pour découvrir notre nouvelle maquette et toutes nos enquêtes. À bientôt Nicolas, à bientôt Florian.
À bientôt Valentine.
Le Talk Franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.